Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle. Prions, ô Dieu, qui avez envoyé votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens, Saint Pidis, Saint Joseph, Saint Ignace de Loyola, Saint Thomas d'Aquin, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, nous allons donc commencer aujourd'hui un très beau traité de la sœur théologique de Saint Thomas, donc les traités sur ce qu'on appelle les vertus. Donc le traité sur les vertus est un traité facile qui contient certaines des plus belles pages de la Somme, entre autres les. Mais à la fin du traité, surtout les parties sur les dons du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit, les vertus théologales, etc. Il y a beaucoup de choses magnifiques. Alors vous avez ça sur le polycopier à la page 42. Donc j'ai fait des corrections, donc, une fois que je mets sur Internet, parce que j'ai oublié le titre là. Donc au milieu de la page 42, donc en fait on change de... Le traité, on passe du traité des habitudes que j'ai couvert en deux minutes, au traité des vertus. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une vertu? Une vertu, si vous voulez, on peut définir comme ça, c'est une habitude bonne. Les habitudes, c'est des façons de réagir qu'on a dans notre âme, qui vont être soit influencées par le bon esprit, ce qu'on appelle une vertu, soit influencées par le mauvais esprit, ce qu'on appelle un vice. Donc saint Thomas va avoir deux traités successifs, l'un pour couvrir les vertus et l'un pour couvrir les vices. Donc la définition traditionnelle de saint Thomas de la vertu, c'est habitus operativus bonus, ça veut dire une habitude par laquelle j'agis de façon habituelle, je dirais, en suivant le bien. Bon. Alors, donc le traité sur l'habitude en tant que telle, c'est un traité purement philosophique, donc je suis passé là-dessus très vite. Donc j'ai expliqué que les habitus sont des... sont des façons de réagir, si vous voulez, qui vont nous aider à suivre soit le bien, soit le mal. Voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin, donc c'est la page 41, en bas de la page... deux paragraphes avant la fin de la page. On appelle habitus, dit-il, l'arrangement suivant lequel un être est bien ou mal disposé ou par rapport à soi ou à l'égard d'une autre chose. Habitus sont ce qui nous fait réagir bien ou mal dans les passions. C'est-à-dire que c'est une tendance, si vous voulez, naturelle en nous, travaillant sur l'intelligence, sur la volonté aussi, qui fait que l'âme, sur un plan naturel, attention, avec l'habitus, ces habitus sont des... Ici, ce sont des choses purement naturelles. C'est une réaction que nous allons avoir qui va nous porter spontanément vers les choses bonnes, la vertu, ou spontanément vers le mal, à savoir le vice. D'accord ? Donc, les vertus, à ce moment-là, ce sont rien d'autre que des habitudes, des habitus, que vous voulez, on peut utiliser les deux mots, des habitus qui nous portent vers le bon. Voilà ce que dit saint Thomas, donc on est au milieu de la page... Là, on est en page 42, c'est ça. Page 42, il y a de la page. Donc, c'est là où commence le traité. Donc, le titre manque. Donc, les habitus. Donc, c'est la prima secondée, première partie de la seconde partie, questions 55 à 70. Bon, alors. La vertu, donc, c'est une habitude d'opération que nous avons en nous qui nous porte au bien. Bon. Soit ce sont des choses qui vont. Être purement naturel, soit sont des choses sur lesquelles le bon Dieu va intervenir. Parce qu'il y a plusieurs sortes de vertus. Bon. Donc, j'essaie un petit peu de décortiquer un peu tout ça pour vous aider à vous y retrouver, parce que saint Thomas mélange un peu les choses, et ce n'est pas toujours très facile de bien se retrouver. Donc, vous avez d'abord des vertus donc, purement naturelles, ce qu'on appelle les vertus intellectuelles. Bon. Ça, c'est du domaine naturel. Ce sont les vertus qui permettent à l'intelligence de fonctionner normalement. Bon. Au-dessus de ça, vous avez aussi ce qu'on appelle les vertus morales. Hein? Ensuite, ça encore les vertus cardinales. Et au-dessus de ça, les vertus théologales. Bon. Les vertus théologales, et encore au-dessus des vertus théologales, vous avez le sommet de la vie spirituelle, ce qu'on appelle les fruits du Saint-Esprit, qui sont des conséquences directes du travail du bon Dieu sur notre âme. Est-ce que j'ai marqué ça? Donc, question de résumer rapidement pour vous aider à vous y retrouver. Donc, les vertus intellectuelles, il y en a cinq. Bon. On me donne toujours par deux groupes. Il y a la prudence et l'art. D'accord. Et après, il y en a trois qui se rajoutent, l'intelligence, la science, et la sagesse. Attention, là, le niveau naturel. Donc, ce n'est pas une sagesse surnaturelle, c'est une sagesse naturelle, dans le sens que c'est le moyen d'action normal de l'intelligence, par les vertus intellectuelles. Les vertus morales, bon, y en a énormément, donc je ne vais pas toutes les données. Il y en a des centaines et des centaines. Les vertus cardinales, il y en a quatre. Donc, la justice, la prudence qu'on retrouve ici. La prudence, la justice, la force et la tempérance. Donc, vous voyez qu'on retrouve certaines vertus dans deux endroits différents. On la retrouve ici, on la retrouve aussi ici. D'accord ? Les vertus théologales, il y en a trois. Foi, espérance, charité. Je vous ai parlé ce matin en sermon. Foi pour croire, espérance pour prier, charité pour obéir par amour pour Dieu. C'est ça la charité. La charité permet de remplir la loi du bon Dieu qui nous est transmise par la foi. L'espérance nous donne les moyens de garder la tête, les yeux vers le ciel, pour espérer justement suivre ses commandements et de par la grâce du bon Dieu. Donc le bon Dieu nous donne sa grâce pour qu'on puisse suivre ses commandements et à partir du moment où on suit les commandements du bon Dieu, on espère arriver au bonheur éternel. C'est la définition de l'acte d'espérance que j'expliquais ce matin. Donc, ça c'est une première distinction des vertus. Il y a d'autres distinctions. On distingue les vertus acquises. Les vertus acquises, ce sont des vertus qui sont acquises de façon naturelle par la répétition d'actes bons. En répétant des actes bons, on finit par obtenir des vertus acquises. Par exemple, quelqu'un en supprimant le vin pendant une longue période de temps va finir par avoir une vertu de sobriété naturelle, au domaine naturel, attention, par le fait que pendant plusieurs années, cette personne a fait un effort de ne plus boire de vin, par exemple. Bon. On peut acquérir une certaine gentillesse, douceur, toutes les vertus possibles et imaginables peuvent être acquises aussi avec la grâce du bon Dieu, bien sûr, mais aussi sur un plan purement naturel. Bon. Il y a aussi les vertus infuses. Alors, et puis du tout dans le même domaine. Les vertus infuses, elles viennent directement du bon Dieu. Bon. Donc, le bon Dieu donne des vertus infuses, et les vertus sont essentiellement données par l'intermédiaire des sacrements, surtout le sacrement de la Sainte Eucharistie. La grande règle en matière, quand on parle des vertus, c'est l'axiome de saint Thomas extrêmement connu, je vous ai déjà donné des centaines de fois, mais il ne faut jamais l'oublier celui-là, la grâce ne détruit pas la nature.
Mais l'élève.
Voilà. La grâce ne détruit pas la nature, mais l'élève. Donc, Pour que la grâce puisse travailler, il faut qu'il y ait une nature qui soit préparée. C'est pour ça que l'éducation des enfants est tellement importante. Ouais. Certes, le bon Dieu peut faire des miracles. L'exemple typique, c'est Saint Paul. Bon, Saint Paul n'avait jamais reçu une éducation catholique. Littéralement, en quelques minutes, après avoir reçu le baptême, il a eu toute la connaissance de la foi. C'est le cap. Allez.
Laissez-le sortir dans la cour derrière, au pire.
Allez, voilà.
Il n'a pas compris, il peut tomber sans sortir par là. Celui-là, il a bien compris, il a bien.
Voilà des chiens. Donc, les vertus infuses ne sont pas, ça c'est très important aussi à comprendre, elles ne détruisent pas la nature, première chose. Aussi, ces vertus infuses ne sont pas toutes détruites par l'état de péché mortel. Par exemple, il peut y avoir une vertu infuse de foi et d'espérance qui demeure même sans la charité. Quand une vertu est unie à la vertu de charité, saint Thomas appelle ça une vertu formée. Autant au sens philosophique du terme. Formée, ça veut dire qui est vivante. Quand la foi et l'espérance ne sont pas unies à la vertu de charité, parce que c'est la foi et l'espérance dans un âme qui est tuée par le péché mortel, c'est ce qu'on appelle une vertu informe. Informe. Donc, informe, c'est ça. Oui, il faut bien connaître ces termes. Alors, avant de me lancer là-dedans, donc j'avais déjà un peu commencé, je voudrais reprendre un peu ça, parce que les derniers cours que je vous avais donnés, je n'ai pas eu assez de temps pour les préparer. Entre autres, j'essaie de vous préparer ce cours, d'utiliser le livre dont je vous ai déjà parlé, de l'abbé Le Breton, qui est pas mal, La petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, les âges des ecclésiastiques et les gens du monde. Bon, et j'avais pas le temps, j'étais très en retard dans la partie explicative que donne le père Le Breton, donc ça donnait des cours un peu imparfaits, à mon avis. J'essaie de vous donner un cours un peu plus intéressant aujourd'hui, justement parce que j'ai eu le temps de rattraper mon retard la semaine dernière. Donc, si on le voit un petit peu ensemble, donc ce que dit saint Thomas, en général, et puis après on ira en particulier sur le texte directement de saint Thomas. N'oubliez pas que le texte que vous avez entre les mains, donc les feuilles là, polycopiées, qui sont sur le site internet, sont le texte même de saint Thomas. Il n'y a pratiquement rien de moi là-dedans. Donc le reste, c'est des choses que je rajoute. Donc voilà ce que dit saint Thomas. Donc je reprends un petit peu, ou le père Le Breton pour expliquer un peu. Donc, voilà la définition que le Père donne en reprenant saint Thomas d'Aquin, c'est un peu celle que je vous ai donnée. La vertu humaine est donc une bonne habitude qui opère le bien. Il y a quelque chose, une tendance naturelle qui nous pousse vers le bien. D'accord ? Habitus operativus bonus en latin. Un habitus, une habitude, c'est un mot qui n'est pas traduisible en français, il n'y a pas le mot équivalent en français. Bon, une habitude, on peut dire ça comme ça, operativus bonus, qui nous fait opérer vers le bien. D'accord ? Tout mal, dit saint Thomas d'Aquin, c'est saint Denis en fait, un père de l'Église, un grand martyr, tout mal, le mal, dit-il, est une infirmité. Je vais mettre dans votre pièce ou dans derrière. Bon, donc voilà la définition que donne le père de saint Augustin cette fois-ci, qui est un petit peu semblable à la première. La vertu est une bonne habitude de nos âmes par laquelle nous vivons dans la droiture dont personne ne peut abuser, que Dieu parfois produit en nous sans nous. Il peut y avoir des habitudes qui sont infuses et des habitudes qui sont acquises. Il y a même des habitudes qui peuvent être innées. Innées, c'est qu'on est né avec. D'accord ? Innées, ça veut dire qu'on est né avec cette vertu. In nature en latin. D'accord ? Donc les vertus infuses ne peuvent être produites en nous que par la grâce, parce qu'elles sont infuses. Donc elles viennent directement de Dieu, et toutes les vertus infuses sont ipso facto vertus surnaturelles. Alors que les autres peuvent être des vertus naturelles. Parce que fait souvent bon Dieu, c'est que le bon Dieu peut très bien, dans certains cas, commencer par utiliser les vertus naturelles et rajouter quelque chose de surnaturel à quelque chose de naturel. Encore une fois, il part d'une habitude qui est bonne et il passe au niveau supérieur. Alors, voilà ce que dit le père Le Breton, là, je résume rapidement pour vous. La vertu, dit-il, est la perfection des facultés, une habitude qui porte à l'action, qui dispose au plus grand bien, le plus grand bien qui se trouve dans notre fin, à savoir celui de notre âme. Donc, Dieu va ne se contente pas de nous créer, mais va nous donner des moyens naturels et des moyens surnaturels qui vont travailler ensemble pour aller vers le bon Dieu, pour aller vers le ciel. D'accord? Alors, certaines de ces vertus vont travailler surtout avec l'intelligence, certaines de ces vertus vont travailler plus avec la volonté, certaines de ces vertus vont travailler plus avec l'irascible ou d'autres avec le concupiscible. On va voir un petit peu tout ça, toutes ces distinctions qui sont importantes. Donc voilà ce qu'il dit, la puissance irascible. Rappelez-vous ce que c'est que la puissance irascible. C'est un pouvoir de combat qu'on a en nous, de combat contre les obstacles. Le Père dit, la puissance, ou ça c'est en fait un texte de Saint Thomas, la puissance irascible et la puissance concupiscible. L'irascible c'est la puissance de combat, et le concupiscible c'est la puissance de désir, on désire les choses. Il dit, la puissance irascible et la puissance concupiscible, qui portent en elles-mêmes le foyer de la concupiscence, ne se soumettent pas à la raison sans résistance. Elles ont besoin de certaines vertus pour lui obéir fidèlement. Donc le bon Dieu va utiliser certaines vertus infuses ou augmenter certaines vertus acquises ou vertus innées pour augmenter en nous l'amour du bon Dieu et nous aider à rester et à vivre en état de grâce. D'accord? Alors, voyons d'abord rapidement, donc je vous ai déjà mis ça au tableau, donc quelles sont les vertus intellectuelles. Donc les habitudes intellectuelles spéculatives ou qualités de l'intelligence ne perfectionnent pas la volonté. Elles peuvent être appelées vertus, c'est dans ce sens, le sens qu'elles donnent la faculté de bien agir ou de contempler la vérité. Donc, c'est une autre définition de la vertu. Faculté de bien agir. Une habitude, habitus operativus bonus, ou faculté de bien agir, c'est synonyme, c'est dire pratiquement la même chose. C'est un pouvoir que j'ai qui me tourne vers le bien. D'accord ? Et ça, c'est une belle expression aussi du Père, là, qui nous tourne vers le bien et qui nous fait contempler la vérité. Donc la vertu, même naturelle, est quelque chose qui va nous préparer notre âme à la contemplation de la vérité. Donc, ce qui rend méritoire les actes de ces habitudes, ce sont les vertus de charité ou de justice qui perfectionnent la volonté. La vie contemplative a donc plus de mérite que la vie active. Pourquoi ? Parce que la vie contemplative est plus proche du bon Dieu que la vie active. Strictement parlant. Alors, là, il donne les trois premières vertus intellectuelles, donc les vertus intellectuelles spéculatives, et ensuite les vertus intellectuelles plus pratiques. Les vertus intellectuelles spéculatives, c'est l'intelligence, la science et la sagesse. Les vertus intellectuelles plus pratiques, c'est la prudence et l'art. Donc, la sagesse, elle considère les causes les plus élevées. Donc, vous ne voyez pas que le don de sagesse, c'est le don le plus élevé de tous les dons du Saint-Esprit. C'est le don qui nous fait tout voir avec une lumière divine. Il y a voir les choses telles que bon Dieu les voit, sentir les choses telles que bon Dieu les sent, voir, juger une situation telle que bon Dieu la juge. Quelqu'un qui a le don de sagesse, qui est extraordinaire, c'est très rare. Quelqu'un qui a vraiment la sagesse. C'est pour ça que quand Dieu avait dit à roi Salomon, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez avoir de moi comme cadeau, Salomon a répondu la sagesse. Parce que la sagesse, pour pouvoir juger quelqu'un, le sage, c'est celui qui sait juger. Donc le sage, c'est celui qui est prudent par définition. D'accord ? Donc, en deuxièmement, la science, qui est relative aux recherches de la raison humaine, aux déductions que fait les raisonnements dans les branches diverses des connaissances humaines. Et enfin, l'intelligence, par laquelle nous percevons immédiatement et directement les premiers principes. Donc je vous ai parlé, il y a plusieurs cours, rappelez-vous, quels sont les premiers principes, les points les plus importants ? Hein? Causalité, hein?
Premier moteur.
Non. Causalité?
Identité.
Non-contradiction, celui-là qui est très très important. Principe de non-contradiction, principe de causalité, hein? Et principe d'identité. Donc, la sagesse à laquelle il appartient de juger toutes choses, par cela qu'elle remonte aux causes premières sans lesquelles on ne saurait porter un jugement absolument parfait, est une vertu donc supérieure à la science, dont elle prouve les conclusions par les principes en jugeant les principes eux-mêmes. C'est-à-dire que la sagesse nous donne donc une vision des choses les plus élevées. On dit que la vraie philosophie, c'est l'ami de la sagesse. Le vrai philosophe, c'est celui qui est ami de la sagesse, c'est-à-dire qui sait juger les choses importantes des choses secondaires. Et ça, c'est très important aujourd'hui. C'est une vertu qui se perd complètement, la vertu de sagesse. Une sagesse, quelqu'un qui a la sagesse en lui, même une sagesse purement naturelle, c'est quelqu'un qui sera capable de distinguer entre les choses importantes et les choses secondaires. C'est très important, je le dis, pourquoi ? Parce que le monde moderne, je l'ai déjà dit 25 000 fois, le monde moderne, si vous voulez, va couvrir notre âme de choses secondaires pour qu'il n'y ait plus de place pour les choses principales. Et donc, il va faire un tri pour mettre dehors les choses pour les choses secondaires et garder les choses principales, les choses qui sont importantes. Alors, donc, au niveau maintenant des vertus, donc je rappelle les trois vertus intellectuelles spéculatives, je rappelle, donc il y a cinq vertus intellectuelles, la prudence, l'art, l'intelligence, la science et la sagesse. Bon. Vertu intellectuelle spéculative, une définition de donc une division de saint Thomas. Vertu intellectuelle spéculative qui comporte donc l'étude des grands principes, la sagesse, la science et l'intelligence. Après, il y a les habitudes intellectuelles pratiques, plus la façon de vivre, la façon d'agir. C'est tout l'art et la prudence. Donc saint Thomas définit l'art et la prudence recta ratio. Agibilium, c'est-à-dire la droite raison dans l'agir. C'est-à-dire quand j'agis en suivant la loi de la raison. Donc tout homme doit suivre deux lois. La loi naturelle et la loi divine. D'accord ? Mais même un païen qui ne connaît pas la loi divine va au moins connaître la loi naturelle qui est inscrite en lui. Parce que la loi naturelle inscrite en lui, c'est en fait la loi surnaturelle. Qui est inscrite en lui sans qu'il le sache. Donc voilà le texte que je voulais vous donner. L'art, donc comme habitude intellectuelle, s'il s'agit de la vertu improprement dite, qui donne la faculté d'exécuter des œuvres dont la bonté dépend de leur qualité intrinsèque et non des dispositions morales de leur auteur. C'est-à-dire, quelque chose peut être, ça c'est aussi très important à comprendre, j'ai eu une prise de bec assez sérieuse avec quelqu'un de la tradition qui ne comprenait pas du tout ça, qui dit qu'à partir du moment où un livre est écrit par quelqu'un qui est mauvais, le livre est ipso facto à condamner. C'est faux. L'Église catholique n'a jamais condamné un livre parce qu'il a été écrit par quelqu'un de mauvais. L'Église catholique condamne un livre parce que le livre est mauvais. Pas pareil. Alors, c'est pour ça que quand, par exemple, à la congrégation de l'index, quand il y en avait une, congrégation de l'index, quand il jugeait un livre, il suffisait perdument de savoir d'ailleurs qui avait écrit le bouquin. Il jugeait le livre, matériellement parlant. Et d'ailleurs, dans certains cas, pour justement empêcher certaines influences extérieures, on ne donnait pas au conseil de l'index, les gens qui étudiaient le livre, ils ne savaient pas de qui c'était. Pas toujours. Donc ils étudiaient le livre objectivement est bon, donc il n'est pas condamné puisqu'il est bon. Après, s'il découvrait qu'il a été écrit par quelqu'un qui a été marié 25 fois, bon, qui était un repris de justice, ça ne change rien à la bonté intrinsèque du livre. D'accord ? Bon. Ça, c'est aussi très important à comprendre. Par exemple, les gens vont dire, vous savez, vous avez assisté à une conférence qui est peut-être bonne, mais le gars qui donne la conférence, il est marié trois fois. Bon. Je dirais, moi, je ne vais pas à la conférence parce que le gars est marié trois fois, je vais à la conférence parce que la conférence m'intéresse. Bon, certes, c'est là où la prudence va intervenir, la sagesse va intervenir, pour qu'il n'y ait pas de scandale qui soit donné, pour que les choses soient faites avec prudence. Ça, c'est autre chose. C'est deux choses différentes, d'accord ?
Parce qu'on peut pas souvent... Ne regardez pas qui l'a dit, mais ceux qui le disent.
Évidemment, oui.
Mais on se sert de ça aussi pour nier la fallibilité. Quand c'est le pape qui parle.
Oui, mais là, il faut faire attention.
Qui le dit.
Oui, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai, par exemple, il y a eu un cas avec. Je ne sais plus si c'est avec Monseigneur Gaume ou Monseigneur de Ségur. Un des deux, je crois que c'est Monseigneur de Ségur qui a écrit un livre qui a été mis à l'index. Parce qu'il y a une erreur théologique dedans. Donc, il a été mis à l'index. Mais les gens qui ont fait la condamnation, le pape qui a fait la condamnation savait très bien la valeur de Monseigneur Gogo, Monseigneur Ségur, donc le livre a été mis à l'index jusqu'à correction. Donc, dès qu'il a été. On lui a fait savoir qu'il y avait une erreur théologique dans son livre, il a corrigé l'erreur théologique et hop, l'index a fait sauter la condamnation, c'était absolument évident. Alors, il y a des cas où la congrégation de l'index pouvait condamner. Tous les livres d'un auteur, par exemple, regardez Voltaire, tous les livres de Voltaire sont condamnés par l'Église. Tous, ils sont tous à l'index, pas d'exception. Pourquoi ? Parce que Voltaire a utilisé son intelligence que pour le mal. Bon, malheureusement. Bon. Cependant, c'est pas parce que quelqu'un est en soi hérétique que ça veut dire que ses livres sont mauvais. D'accord ? Ça, il faut faire attention à ça. C'est ça qu'il y a des distinctions qui sont un peu dangereuses, parce que vous pouvez avoir un livre qui est objectivement bon, un auteur qui est extrêmement dangereux sur le plan intellectuel, même si son livre est bon, faire très attention. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui va lire un livre bon d'un auteur mauvais va être tenté de considérer que puisque le livre est bon, donc la personne qui l'a écrit n'est pas si mauvaise que ça, va commencer à lire d'autres livres de lui, et là, va se faire finir par se faire rouler. C'est peut-être une tentation sous apparence de bien. Donc attention à ça. Alors, l'art est donc, dit saint Thomas d'Aquin, une vertu en tant qu'il donne la faculté de produire des œuvres bonnes. Mais les vertus qui perfectionnent la volonté, ayant seul le privilège de présider au bon usage que l'homme fait de ses talents, l'art est une vertu imparfaite qui ne s'élève pas à la hauteur d'une œuvre moralement bonne. C'est quelque chose qui nous prépare à quelque chose de plus grand. Bon. La prudence, elle, recta ratio agibilium, c'est la droite raison dans l'action. La différence de l'art, où l'on ne considère que la bonté des œuvres extérieures sans avoir égard aux dispositions morales des artistes, la prudence suppose la droiture de la volonté et en même temps la vertu morale qui la donne. La prudence est donc au-dessus de l'art. Quelque chose peut être artistiquement très beau, bon, ça c'est une chose. La prudence va intervenir pour savoir si on peut donner cette chose artistiquement très belle à par exemple, des jeunes intelligences. Vous pouvez avoir une peinture, par exemple, beaucoup de peintures, surtout à l'époque de la Renaissance, qui sont objectivement très belles, mais qui n'ont rien à faire dans une église. Bon, par exemple, l'exemple classique, c'est des peintures de la chapelle Sixtine à Rome, qui sont objectivement très belles. Il y a énormément d'art dans tout le travail de Michel-Ange. Mais il y a beaucoup trop de nudité là-dedans, et ça n'a rien à faire dans une chapelle. Voyez. Donc, l'art va dire que l'œuvre est belle, la prudence va dire elle est belle, certes, mais elle n'a rien à faire dans une chapelle, parce que la chapelle est un lieu sacré dans lequel on ne peut pas mettre des choses de ce genre.
Très bien, elle choque beaucoup, parce que ça choque beaucoup avec les peintures murales.
Je n'ai pas vu.
Oui, hein. Mais qui sont les...
Mais c'est possible, je n'ai jamais vu la chapelle.
Ça fait un tel contraste.
Mais c'est là qu'il faut faire attention parce que justement il peut y avoir par exemple des nus artistiques mais qui restent des choses qui ne doivent pas être montrées comme ça sans prudence parce que justement à cause de la concupiscence de la chair ça peut exciter la concupiscence. D'accord. Donc la prudence est au-dessus de l'art. Alors on pose la question, donc justement ça, je donne un peu de généralité sur les vertus avant après d'attaquer surtout d'aller plus en profondeur. Donc, saint Thomas va se poser la question, la question 57. Je résume d'autres parties de saint Thomas que je n'ai pas explicitées dans le texte que vous avez sous les yeux. Dans le texte que vous avez sous les yeux ici, j'ai commencé la question 58, article 4. Bon, j'ai pris simplement le texte le plus important. Donc, je résume les textes précédents, la question 57. Donc, la question 57, c'est justement sur les vertus intellectuelles. Donc, il se pose la question, est-ce que la prudence est nécessaire à l'homme. Alors il répond, l'écriture, la Sainte Écriture met la prudence au nombre des vertus nécessaires à l'homme en disant au sujet de la sagesse, elle enseigne la tempérance, la prudence, la justice et la force, qui sont les vertus les plus utiles à l'homme dans cette vie. Dans le livre de la sagesse, chapitre 8. La prudence est donc utile à l'homme dans cette vie. Elle est donc nécessaire. La prudence qui dirige l'homme vers sa fin, lui indique les moyens d'y arriver, est en effet une vertu indispensable à l'homme pour bien vivre. Donc, l'homme, par son intelligence, va connaître sa fin. Par la volonté, il va avoir le choix entre plusieurs moyens pour atteindre la fin pour laquelle il a été créé. C'est la prudence qui va ensuite illuminer la volonté et l'intelligence pour trouver la solution qui lui convient à lui particulièrement, qui ne va pas forcément convenir aux voisins. C'est pas parce que pour vous, il est bon d'utiliser telle route pour aller au ciel, ça ne veut pas dire que le voisin va utiliser la même route. Bon, personne mariée, par exemple, ne va pas utiliser les mêmes moyens pour aller au ciel qu'une personne célibataire. Une personne célibataire ou même mariée ne vont pas utiliser les mêmes moyens pour aller au ciel qu'un prêtre ou une religieuse. Pourquoi ? Parce que c'est des états de vie qui sont différents. Voilà ce que dit saint Thomas. Donc la prudence qui dirige l'homme vers sa fin et lui indique les moyens d'y arriver est en effet une vertu indispensable à l'homme pour bien vivre. La prudence étant précisément ce qui perfectionne la raison dans le choix des moyens convenables pour parvenir à notre fin, est pour nous une vertu d'absolue nécessité. C'est la même chose que ce que je viens de dire, mais de façon plus belle. Donc la prudence est donc la raison qui va intervenir pour nous permettre de choisir ce qui est mieux pour nous selon les conséquences, les circonstances de notre vie. D'accord ? Alors, saint Thomas a fait remarquer que la vertu de prudence va s'adjoindre à toute une série d'autres vertus. La prudence, dit-il, dont la principale fonction est le commandement, s'adjoint comme vertu secondaire d'autres vertus comme le bon conseil, la science du droit, le jugement. Donc, la mémoire, l'intelligence, la prévoyance, la précaution, la docilité et les autres qualités semblables ne sont pas des vertus différentes de la prudence, elles sont les parties intégrales de la prudence. C'est-à-dire différents moyens, différentes circonstances dans lesquelles la prudence va devoir agir. D'accord ? Alors, on arrive ainsi à la question 58. Je vais vous donner un rapide résumé des trois premiers articles, et puis ensuite on continuera avec l'article 4, donc qui est à la page 43. La vertu morale peut-elle exister sans vertu intellectuelle ? Alors, question 58, de la distinction entre des vertus morales et des vertus intellectuelles. Bon. Les vertus intellectuelles, vous voyez, il rappelle bien que les vertus intellectuelles dont nous avons parlé, à savoir vertu intellectuelle spéculative, intelligence, science et sagesse, vertu intellectuelle pratique, prudence et art, sont distinctes des vertus morales. Attention, ce n'est pas la même chose. Donc les vertus intellectuelles dont nous avons parlé ne sont pas des vertus morales. La raison, dit saint Augustin, marche en avant, mais la volonté ne suit pas toujours. Le cœur a malheureusement ses raisons que la raison ne connaît pas. Pour que l'homme agisse bien, il faut donc non seulement que la raison soit disposée par les vertus intellectuelles, mais aussi que ces puissances appétitives, c'est-à-dire, c'est quoi ? C'est les puissances du concupiscible, que ces puissances appétitives soient perfectionnées par les vertus morales, qui conséquemment se distinguent des vertus intellectuelles quand l'appétit diffère de la raison. Donc, les vertus intellectuelles sont des vertus générales, en quelque sorte, et ensuite, d'autres vertus plus particulières vont entrer dans la bagarre. Les actes volontaires ou humains n'ont que deux principes en nous, soit la raison, soit la volonté. Donc, si elle perfectionne la raison, j'ai oublié une phrase. La vertu doit nécessairement perfectionner l'une ou l'autre de ses facultés. Soit la vertu perfectionne la raison, soit elle perfectionne la volonté. Si la vertu perfectionne la raison, elle est ce qu'on appelle une vertu intellectuelle. Si la vertu perfectionne la volonté, une vertu morale. Bon, c'est l'intelligence qui ensuite va avoir un effet sur la volonté. Donc c'est pour ça que les vices de l'intelligence sont bien plus graves que les vices de la volonté. Pourquoi ? Cause et conséquence. Parce que les vices intellectuels sont beaucoup plus difficiles à sortir d'un organisme spirituel ou intellectuel que les vices de la volonté. Le vice le plus grave en matière d'intelligence, c'est le vice de l'orgueil. D'accord ? La prudence, donc, par sa nature, rend dans les vertus intellectuelles, mais pour les choses dont elle s'occupe, elle se place parmi les vertus morales. Quant aux vertus théologales, qui sont au-dessus des vertus humaines, n'entrent pas dans cette division. Les vertus théologales ont directement Dieu pour auteur. Quelle est la différence essentielle entre les vertus théologales en bas là, et les autres vertus ? C'est que les vertus théologales ont directement Dieu pour auteur. Les vertus intellectuelles, les vertus morales, les vertus cardinales, ont souvent pour champ d'action des choses matérielles, des gens qui ont vie, d'accord ? Il faut exercer sa prudence, exercer la justice dans un conflit, par exemple, le don de force pour lutter contre certaines tentations, et la tempérance pour ne pas prendre trop de vin ou je ne sais pas trop quoi. Et donc, ces vertus morales, cardinales, vont intervenir surtout dans la pratique. Les vertus théologales, du grec théos veut dire Dieu, ont Dieu directement pour auteur. Donc les vertus théologales sont au-dessus des vertus cardinales. Donc il y a une espèce d'ordre. D'abord les vertus intellectuelles qui donnent la manière d'agir, les vertus morales, les vertus cardinales. Bon, en fait, les vertus cardinales font partie des vertus morales. Bon, on peut dire les vertus morales générales et les vertus morales spéciales, c'est-à-dire les vertus cardinales, la prudence, la justice, la force et la tempérance, et les vertus théologales, foi, espérance, charité. Donc après, on verra quelles sont les vertus les plus importantes là-dedans. Au niveau des théologales, c'est la charité. Au niveau des cardinales, c'est la prudence. D'accord ? C'est pour ça que la prudence, c'est la vertu du chef. Et l'idéal, c'est d'avoir un chef qui a à la fois la prudence et à la fois la charité. Que prudence sans charité, ou charité sans prudence n'est pas une véritable prudence. Prudence sans charité, c'est pas une véritable prudence. Donc il faut une alliance entre les deux choses. D'accord ? Alors, est-ce que j'ai mis ça ? Thank you. Alors, donc je réexplique ça rapidement en bas de la page 42. Donc, on avait déjà vu la première partie. Donc, je résume ainsi. Ça, c'est des textes de saint Thomas, mais je mets parfois mon grain de sel pour expliquer un peu davantage une formule pour être sûr qu'elle soit bien compréhensible. La prudence est donc la raison, dans la raison, puisqu'elle est la droite règle de l'action. Bon. Donc, le bien de l'intelligence, la nourriture normale de l'intelligence, c'est le vrai. Bon. On peut donner à des gens un poison, ce qu'on appelle le poison, c'est une nourriture qui va empoisonner le réceptacle. Cette nourriture empoisonnée, c'est le faux, c'est le mal, c'est le péché. D'accord ? Alors, ce que dit saint Thomas, il est donc nécessaire qu'il y ait dans la raison une vertu intellectuelle qui lui donne assez de perfection pour bien se comporter à l'égard des moyens à prendre. C'est la prudence. La prudence, donc, va nous aider à choisir ce qui est meilleur dans les circonstances qui sont les nôtres. Donc, c'est une vertu nécessaire pour bien vivre. La vraie vertu, le vrai de l'intellect spéculatif dépend donc de la conformité de l'intelligence avec la réalité. Donc la prudence va juger si l'image qui est dans la cervelle, ce qu'on appelle l'image intellectuelle, correspond à la réalité qui est à l'extérieur. D'accord ? Et ensuite, la prudence va donc intervenir là-dessus pour voir dans quelles circonstances il faut appliquer ce qu'on cherche. Il faut quel chemin le plus court qui nous amène à ce qu'on cherche. Voilà. D'accord. Donc, il y a ici cette phrase de Cicéron qui est très belle, que Saint-Augustin cite. Vous voyez que Saint-Augustin n'hésite pas à citer les auteurs païens. On a beaucoup reproché ça à Saint-Thomas. Il dit, mais c'est une discussion une fois. Il semble qu'il y a une personne qui est protestante. C'est un scandale. Saint-Thomas d'Aquin est allé chercher des auteurs païens comme Aristote et Platon. Réponse, mais Aristote et Platon ont dit des choses très belles. Ils étaient païens. C'est pas parce que quelqu'un est païen que ça veut dire que quelqu'un de païen n'est pas capable de dire quelque chose de très beau sur l'art, sur des tas de choses. Vous avez des auteurs païens qui ont parlé de façon magnifique de Dieu. Par exemple, Aristote, 4 siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ, avait déjà prouvé l'existence d'un premier moteur, l'existence d'une première intelligence, l'existence d'une première cause, qui était cause de tout. Il avait appelé déjà cette cause Dieu, alors que c'était un païen. Bon, c'était une époque aussi où les gens savaient réfléchir. Hein. Aujourd'hui, les gens savent plus réfléchir. Pourquoi ? Parce qu'on a, si vous voulez, on les maintient dans le bruit constamment pour que, étant dans le bruit constamment, ils ne puissent plus prendre le temps d'étudier les choses qui valent la peine. Donc, on pousse les gens à perdre un temps fou avec des choses secondaires pour qu'ils n'aient pas le temps d'utiliser, d'étudier les choses les plus importantes. D'accord ? Alors, soit on utilise des habitus qui vont être utilisés pour le bien, c'est la vertu, soit on utilise des habitus pour le mal, c'est ce qu'on appelle le vice. Alors, attendez, j'ai une note à la page 232, est-ce que j'ai déjà noté ? Oui, ça, je l'ai déjà. Ah, c'est joli. Alors, on est en page 43 maintenant, donc on avance quand même un peu. Donc, il est page 41, 42, 43. On commence à page 43 dans le polycopie pour ceux donc qui sont sur Internet. Alors, là, je résume ce que je viens de dire. Donc, les vertus intellectuelles, c'est en gras en page 43. Les vertus intellectuelles ne sont qu'au nombre de 5. Donc, la science, la sagesse, l'intelligence, la prudence et l'art. Donc, je répète, les vertus intellectuelles pratiques, c'est la prudence et l'art. Spéculatives, la science, la sagesse et l'intelligence. Bon. La vertu est donc double, une intellectuelle, une morale. Bon. Alors, les vertus théologales, donc foi, espérance, charité, ce sont des vertus d'exception. C'est des vertus qui ne sont pas classées, évidemment, les vertus morales, parce que l'homme, en quelque sorte, par les vertus théologales, devient participant à la grâce divine. Les vertus théologales vont donc déifier l'homme, ce qui n'est pas le cas du tout des vertus cardinales, des vertus morales. Une vertu morale, strictement parlant, ne déifie pas l'homme, alors qu'une vertu une vertu cardinale ou morale ne déifie pas l'homme, alors qu'une vertu théologale, foi, espérance et charité, elle va déifier l'homme. Bon, donc j'ai gardé surtout les parties qui me semblent les plus belles. Donc là, on va étudier à fond l'article 4 de la question 58. Donc, le titre de cette question, la vertu morale peut-elle exister sans vertu intellectuelle ? Alors, c'est-à-dire que, est-ce que la volonté peut travailler, si vous voulez, sans être guidée par l'intelligence ? Et saint Thomas va évidemment répondre, voilà la distinction qu'il va faire, il va expliquer que les vertus morales ne peuvent exister sans les vertus intellectuelles. Donc, il ne faut pas séparer la volonté de la volonté d'intelligence. Vous voyez, c'est ça le drame dans le monde moderne. Un des drames, c'est qu'il sépare et coupe complètement la volonté de l'intelligence. D'accord ? Alors, la vertu, je vous donne d'abord un résumé rapide de l'article, là, dans le livre de Petite Somme théologique du Père Le Breton. Quoique les vertus morales puissent exister sans la sagesse, la science et l'art, elles ne sauraient du moins se passer de la prudence, de l'intelligence et de l'intelligence des principes. Non. D'abord, donc ces vertus morales ne peuvent pas se passer de la prudence, de l'intelligence des principes. Prudence et intelligence des principes, ce sont des vertus intellectuelles. Donc, conclusion, les vertus morales ne peuvent pas exister sans les vertus intellectuelles. D'abord, il n'y a point de vertu morale sans la prudence. Il cite Saint Grégoire, Grégoire le Grand, c'est la fête aujourd'hui. Là, je crois que c'est Saint Grégoire 7 aujourd'hui, non ? C'est pas vrai, oui. C'est pas le même Saint Grégoire. Bon, Saint Grégoire, je pense que Saint Grégoire le Grand dont il parle là. La vertu qui n'agit pas avec prudence n'est point une vertu. La vertu qui n'est pas contrôlée par la vertu de prudence, c'est donc, si vous voulez, une intelligence, une volonté qui travaille sans être contrôlée par l'intelligence. Il manque quelque chose. C'est l'exemple que je vous ai déjà donné, donc il cite. Là, un exemple qui est très beau, que je l'ai déjà cité plusieurs fois. Voilà ce que dit saint Thomas. L'inclination naturelle au bien est à la vérité un certain commencement de vertu, mais elle n'est pas la vertu parfaite. Plus elle est forte, plus elle est dangereuse. Et la droite raison, si la droite raison ne la dirige pas, dans le choix des moyens qu'il faut prendre pour arriver à une bonne fin. Qu'est-ce qu'il dit ? Je répète, parce que ça c'est très important. Bon. L'inclination naturelle très forte, peut-être dangereuse, si elle n'est pas justement dirigée par la droite raison, la vertu de prudence. Et voilà ce qu'il cite, comme exemple, que je vais citer moi-même souvent, « Plus la course d'un cheval aveugle est rapide, plus il se blesse en se heurtant avec violence contre un obstacle. » C'est pour ça qu'un cheval très fougueux est bien tout de même plus dangereux qu'un vieux canasson qui n'avance pas. D'accord ? Parce que le cheval fougueux est capable de faire des catastrophes s'il n'est pas contrôlé par les morts, par les rênes. D'accord ? Alors, continue le texte de saint Thomas. La vertu morale, en effet, nous porte vers une fin légitime et vers des moyens convenables. Comment y réussira-t-elle si elle n'est pas aidée de la prudence qui conseille, qui juge et qui commande ? Donc, la prudence, si vous voulez, va obliger le canasson, l'étalon à s'arrêter et va utiliser trois choses, donc le conseil, le jugement, la commande. Avant de commander, on conseille et on juge. Conseil d'abord, jugement deuxièmement, troisièmement, l'imperium. Hein. Concilium, judicium, imperium, on dit en philosophie. Le conseil, on prend conseil, c'est ce qu'on doit faire. Ensuite, on juge quel est le meilleur moyen, vu les circonstances dans lesquelles je vis, judicium. Et enfin, on donne l'ordre à la volonté, imperium. D'accord ? En second lieu, il n'y a pas de vertu morale sans intelligence. Cette dernière habitude intellectuelle n'a-t-elle pas pour objet de saisir, soit dans la spéculation, soit pour la pratique, des principes évidents de la lumière naturelle ? D'accord ? Il n'est pas indispensable que dans l'homme de bien, la raison brille sous tous ses rapports. Il suffit qu'elle l'éclaire suffisamment sur des bonnes actions qu'il doit accomplir. Une telle connaissance est dans tous les hommes vertueux. Donc, la prudence peut et doit, dans certains domaines, qu'on ne connaît mal, qu'on ne connaît pas, qu'on connaît mal, la prudence va consister pour un individu qui est interrogé sur un domaine qu'il ne maîtrise pas du tout, de dire, je ne réponds pas à cette question parce que je n'ai pas suffisamment de connaissances. Moi, ça m'arrive très souvent. On pose des questions sur un domaine qui est pas vraiment un domaine de catéchisme, ou même parfois un domaine de catéchisme. Moi, ça m'arrive d'avoir des questions au téléphone, comme ça, et je dis, écoutez, je préfère vérifier avant de vous répondre. Rappelez-moi demain que j'ai le temps un peu de vérifier mon jugement. On pose une question toute bête, mais je n'avais jamais pensé à cette question-là. Quelqu'un me posait la question, monsieur l'abbé, est-ce qu'on a le droit d'utiliser pour célébrer la messe du vin sans alcool ? Bon. Ah, est-ce que c'est... Enfin, réfléchir à ce truc-là. Moi, je n'ai pas pu répondre comme ça. Je réfléchis, je n'ai pas vraiment le temps de répondre. Je pense que, parce que je peux me tromper, mais je pense que du vin sans alcool, c'était mon parent, c'est pas du vin. Donc, n'étant pas du vin sans alcool, je ne vois pas comment le vin sans alcool peut être une matière valide pour la messe.
J'entends dire que si le prêtre était saoul, il pouvait prendre du jus de raisin. C'est vrai, ça ?
Attention, le jus de raisin, c'est pas du vin. Il faut que le jus de raisin ait déjà macéré un peu. Et ça, c'est déjà très, très discuté, parce que même un prêtre qui a un penchant très sérieux pour la boisson, il peut prendre une goutte de vin. Hein. Les missionnaires maristes, qui étaient dans le pôle Nord, ils avaient une bouteille de vin pour l'année. C'est tout ce qu'ils pouvaient avoir, il n'y a pas de vin évidemment dans les glaces. Et donc ils avaient l'évêque leur donnait un début d'année une bouteille de vin par missionnaire. Il faut que ça fasse toute l'année. Il y a eu le cas, moi j'ai eu le cas d'un missionnaire qui en début d'année avait eu un feu dans le feu qui a pris dans sa chapelle, qui était en glace, mais avec les vitraux, enfin les vitres qui étaient des pots de phoque qui avaient été huilés. Le feu a pris là, et tout ce qui est dans la chapelle a brûlé, il a fait éclater sa bouteille de vin, il n'a pas pu dire la messe pendant un an. Vous voyez, donc à ce moment, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient une petite pipette, ils mettaient 3 gouttes de vin, une goutte d'eau. En matière valide. Bon, on n'a pas obligé de faire ça ici, mais c'est un peu différent. D'accord? Alors, donc, voyons maintenant donc, le texte qui est sous votre nez, page 43, donc en deuxième partie de la page 43. Prima seconde, première partie de la deuxième partie, question 58, article 4. La vertu morale peut-elle exister sans la vertu intellectuelle? Et pour juger tout ça, il faut d'abord voir la fin. C'est la fin qui tire le wagon. La fin, c'est la locomotive. Quelle est la locomotive d'un individu? Pourquoi est-ce que je dois utiliser ma volonté, ma mémoire, mon intelligence, mon cœur pour aller au ciel? Bon. C'est pour ça que quand on commence l'exercice Saint-Ignace, même si on a des bandits devant nous, des païens, ou des gens qui ne connaissent rien au catéchisme, première chose qu'on voit avec eux, c'est le principe et fondement. L'homme a été créé, donc je dépends d'un créateur, j'ai une situation de dépendance. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir, et par ce moyen sauver son âme. Donc le plus important dans ma vie de tous les jours, c'est mon âme à sauver. Et ensuite, les grandes phrases de l'évangile, que sert à l'homme de gagner le monde à Dieu s'il vient à perdre son âme. Donc d'abord et avant toute chose, il faut étudier la fin, F-I-N. Donc, il ne peut y avoir de véritables vertus morales donc, qui vont nous permettre d'agir dans les circonstances données sans la vertu de prudence. Bon. Et la vertu de prudence, strictement parlant, c'est une vertu intellectuelle pratique. Conséquence, la vertu morale ne peut pas exister sans une vertu intellectuelle. La vertu morale peut bien exister sans certaines vertus intellectuelles, par exemple sans la sagesse, ni la science, ni l'art. Bon. Vous pouvez très bien ne pas tout connaître sur un problème donné, mais elle ne peut exister sans l'intelligence ni la prudence, parce que la prudence va régler l'usage de l'intelligence. Sans prudence, il ne peut pas y avoir de vertu morale, parce qu'on ne peut pas faire un choix. La prudence, c'est ce qui nous permet de faire un choix. C'est pour ça que la prudence travaille toujours avec le don de conseil. Hein. Don de conseil et vertu de prudence travaillent ensemble, justement parce que la prudence c'est la prudence dans le jugement surtout. Une imprudence dans le jugement peut avoir des conséquences énormes au niveau de la commande, au niveau de la périlleux. D'accord. Donc il faut savoir juger proprement. Une fois que le jugement est bien fait au niveau intellectuel, à ce moment dans la pratique, ça peut avoir des conséquences bonnes pour nous. Et, mais une erreur, par exemple, une erreur purement intellectuelle peut avoir des conséquences pratiques énormes. Imaginez un ingénieur qui fait un plan pour fabriquer un pont, par exemple, qui fait une erreur sur son papier. Il fait ses blueprints, comment on dit en français, je sais plus moi. Il prépare ses plans pour son pont avec les quantités de béton nécessaires. Je sais pas quoi, moi je connais rien là-dedans. Et puis il fait une erreur dans son calcul. Bon, c'est actuellement pas encore dans la pratique. Bon. Mais une erreur dans le calcul, donc à la base du raisonnement, avoir des conséquences énormes au niveau pratique, parce que son pont va se casser la figure. Son pont va se casser la figure parce qu'il y a une erreur pratique. D'accord ? Et donc la prudence va maintenant devoir intervenir, une fois que le calcul est fait, la prudence va intervenir, et la prudence, la personne qui est en charge d'un groupe d'ingénieurs, première des choses qu'il va devoir faire, c'est faire vérifier les calculs des ingénieurs qui ont travaillé pour lui, pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Donc il va demander à plusieurs ingénieurs qui ne sont pas directement dans le truc, mais qui peuvent faire des calculs, recalculez-moi ça et vérifions qu'on arrive au même résultat. D'accord. Donc, alors, deuxième paragraphe donc, de cette question 58, article 4, donc page 43. Pour qu'un choix soit bon, il faut donc deux choses. Qu'on ait à l'égard de la fin l'intention requise, et cela à l'œuvre de la vertu morale, qui incline l'appétit vers un bien en harmonie avec la raison qui est la fin requise. Bon. N'oubliez pas qu'on est mené par deux choses, par la loi, la raison, et par la loi éternelle. Bon, la raison va travailler avec les vertus morales acquises, la loi éternelle, c'est les vertus infuses. Donc, Dieu peut donner à quelqu'un une prudence naturelle sur certaines choses. Il y a des gens qui, sans être des catholiques, peuvent avoir un bon jugement sur certaines choses, parce qu'ils ont des vertus morales acquises. Bon. Et il manquera toujours quelque chose, qu'on appelle les vertus infuses. Mais il est évident que d'avoir les vertus infuses, ça va bien plus vite au niveau du résultat que d'avoir des vertus purement acquises. Bon. En général, il faut les deux. Commençons par les vertus acquises, et ensuite, la vertu infuse peut se greffer là-dessus. D'accord. Donc, en général, il y a trois degrés. Il y a d'abord les vertus innées, qu'on a littéralement en naissant. Le bon Dieu a donné à chacun d'entre nous un tempérament qui est différent. Soit vous êtes un colérique, soit vous êtes un phlegmatique, soit vous êtes un sanguin, soit vous êtes un mélancolique. Bon, le bon Dieu donne des tempéraments différents à chaque âme. Bon, et avec ces tempéraments différents, il y a des habitudes qui sont différentes. Il y a des tendances vers le bien et des tendances vers le mal. Bon, par exemple, un colérique aurait une tendance naturelle à se mettre en colère facilement, tendance que n'aura absolument pas un phlegmatique, qui aura lui plutôt tendance à avoir un gros poil dans la main qui lui sert de canne. Bon, un sanguin va avoir peut-être une tendance naturelle au mensonge, par exemple. Que n'aura pas un mélancolique. Bon. Un mélancolique aura un habitus très fort de réflexion. C'est quelqu'un qui prend du temps pour réfléchir et donc qui en général réfléchit bien. C'est un bon philosophe. D'accord. Et le phlegmatique, au contraire, peut avoir une vertu acquise ou même innée de patience. N'a absolument pas un colérique. C'est pour ça qu'il faut que les gens doivent être sont différents. Quand les gens sont trop identiques dans une famille ou dans une société, ça crée des clashs. C'est pour ça qu'en fait, ce qu'il faut, c'est par exemple une société, pour que tout marche, il faut que chaque individu dans la société ait son champ d'action dans lequel il excelle. À ce moment-là, les choses peuvent se faire. Mais il faut, au niveau du chef, celui qui a le contrôle général, il faut la vertu de prudence pour juger justement avec un esprit surnaturel les choses. D'accord ? Alors, pour qu'un choix soit bon, il faut donc, en plus de ça, il faut prendre correctement les moyens en vue de la fin, et cela ne peut se faire qu'au moyen d'une raison qui sache bien conseiller, juger, commander, ce qui est l'œuvre de la prudence et des vertus annexes que j'ai déjà expliqué. Donc, vous voyez, il y a trois étapes par lesquelles il faut passer avant de donner un ordre à la volonté. Malheur à celui qui agit par ce qu'on appelle des mouvements primo-primi. Mouvements primo-primi, c'est des mouvements immédiat, quelqu'un on pique un peu, paf, il bondit tout de suite. Donc, c'est un grand danger ça. Donc il faut justement que la vertu de patience, la vertu de prudence aussi intervienne pour contrôler justement ce danger. C'est un peu la cocotte minute qui commence à surchauffer. Bon, hop, on enlève la petite, je sais pas comment j'appelle ça, la petite.
La soupape
de sécurité pour que la pression diminue la cocotte. Bon. Eh bien, on est un peu comme ça nous. Alors, il va donc, si vous voulez, la vertu morale protégée, donc qui est préparée par la vertu intellectuelle, va pouvoir conseiller, juger et commander correctement. Donc, la vertu intellectuelle, quoi, c'est le pouvoir de l'intelligence, donc soit au niveau pratique, soit au niveau spéculatif, qui va après pouvoir guider et aider l'application des vertus morales. Les vertus morales travaillent sur une intelligence. Le bon Dieu n'envoie pas de vertu morale à un chien ou un chat. Pas de vertu morale, c'est un chien ou un chat. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'intelligence. N'ayant pas d'intelligence, ils n'ont aucune vertu intellectuelle. Donc, il n'y a aucune vertu, c'est un chien. Il peut y avoir une patience naturelle, qui n'est pas le cas du tout de notre chien, nous. Il peut y avoir aussi certaines vertus. Un bon gardien, par exemple. Ce qui n'est pas le cas non plus pour nous. Mais, oui, il faut faire attention à tout ça. C'est pour ça que tout est dirigé par la vertu de prudence. Donc, conclusion de saint Thomas, la vertu morale ne peut exister sans la prudence. ni par conséquent sans intelligence. Voilà le texte, donc c'est le troisième paragraphe avant la fin de la page 43, je vais aussi terminer cette page. C'est en effet par simple intelligence que sont connus les principes naturellement évidents, tant dans l'ordre spéculatif que dans l'ordre pratique. Aussi, de même que la droite règle en matière spéculative en tant qu'elle découle des principes connus naturellement présuppose l'intelligence de ceci, de même la prudence qui est la droite règle de l'action. Donc l'action, si vous voulez, va être dirigée par des lois qui sont au-dessus d'elle. Saint Thomas compare, je l'ai déjà dit, la prudence au cocher des vertus, celui qui tient les rênes, qui contrôle la force des chevaux, qui tire la diligence. Mais l'inclination, dit-il, de la vertu morale s'accompagne de choix. C'est à cause de cela qu'elle a besoin pour sa propre perfection que la raison soit perfectionnée par la vertu intellectuelle. Donc, une prudence, une vertu morale qui n'est pas contrôlée ou contrôlable par une vertu intellectuelle correcte, surtout la vertu de prudence, ça peut aboutir à des catastrophes. D'accord ? On voit très bien, par exemple, certaines personnes qui manifestement ont reçu des dons, c'est très clair, mais ils ne veulent pas utiliser ces dons au service du bien. Il y a un refus catégorique de faire utiliser leurs dons naturels par des moyens surnaturels. Donc ils se bloquent à un niveau, si vous voulez, un niveau extrêmement bas. Ils pourraient faire des merveilles, le bon Dieu pourrait faire des prodiges avec ces âmes-là, mais ils ne veulent pas s'élever parce qu'elles sont engluées au sol, si vous voulez, elles ne veulent surtout pas se détacher du sol. Je vois ça par exemple certains chanteurs. Certains ont des qualités réelles. Des qualités de voix, par exemple. Je me rappelle, quand j'étais gamin, j'aimais bien la voix de John Baez. Bon, c'est vrai qu'elle a une voix magnifique. Bon, malheureusement, elle n'a pas su utiliser sa voix pour le bien, et après elle a utilisé sa voix pour faire des bêtises. Mais je pense à d'autres chanteurs qui peuvent avoir certaines qualités. C'est pas parce que quelqu'un est un chanteur moderne que ça veut dire qu'il n'y a que des défauts. S'il n'y a que des défauts, le mal absolu n'existe pas. Rappelez-vous, j'ai déjà expliqué ça. Donc il peut y avoir certaines qualités chez eux. Malheureusement, s'il n'y a pas la prudence qui règle tout ça et après les vertus surnaturelles qui vont se greffer là-dessus, et s'ils sont pas en état de grâce, ils ne peuvent rien emmagasiner pour le ciel. D'accord ? Alors ensuite, les deux derniers paragraphes de la page 43, je vais terminer ça. Comme ça, on va terminer l'article 4. Ça, on en est. Donc, chez le vertueux, il n'est pas nécessaire que l'usage de la raison soit vigoureux dans tous les domaines. J'ai expliqué un peu, je répète rapidement. Mais uniquement dans celui de la vertu en question. Bon. Par exemple, saint Thomas fait remarquer que les autres vertus intellectuelles, la sagesse, la science et l'art peuvent exister sans les vertus morales. Quelqu'un peut avoir un don artistique remarquable pour telle chose, même s'il n'a pas les vertus morales qui suivent. Ça n'empêchera pas qu'il garde son art pour faire des choses extraordinaires s'il le veut. D'accord ? Alors ici, il recite un texte que j'ai déjà cité sous une autre forme, et c'est bien ce qui a lieu chez tous ceux qui sont vertueux aussi, même ceux qui ont l'air simple, parce qu'ils sont dépourvus de l'astuce du monde, peuvent être prudents selon le monde de l'évangile, soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Et donc, quelqu'un qui peut avoir même de grosses vertus surnaturelles, s'il n'y a pas la prudence, il aura beaucoup de mal à appliquer ses vertus surnaturelles à la vie pratique de tous les jours. Je ne dis pas qu'il n'y arrivera pas, mais il aura d'énormes difficultés. D'accord ? Alors, l'inclination naturelle, dernier paragraphe de la page 43, l'inclination naturelle au bien de la vertu est un commencement de vertu, mais n'est pas la vertu parfaite. Puis alors, une inclination vers quelque chose de bon, ça ne suffit pas pour être sain. Cette sorte d'inclination, plus elle est forte, plus elle devient dangereuse. J'ai déjà cité ce texte, et je le répète parce qu'il est capital, c'est saint Thomas qui parle, plus elle peut être dangereuse s'il ne s'y joint pas une droite règle pour aboutir à un juste choix de ce qui convient à la fin qu'on doit se poursuivre. Il donne le même exemple que j'ai déjà cité, un cheval qui court, s'il est aveugle, heurte et se blesse d'autant plus fortement qu'il court plus fort. Plus le véhicule, traduire ça avec des mots modernes, plus le véhicule est puissant, plus votre voiture est puissante, plus votre voiture va vite, puis il faut des barrières de sécurité qui soient solides. La solidité des barrières de sécurité doit être proportionnelle à la puissance des moteurs des voitures qui vont passer par là. Si vous avez un cheval qui tire une carriole, bon, il n'y a pas besoin que les barrières de sécurité soient très fortes. Par contre, c'est les voitures qui ont un moteur de 250 chevaux, bon, mais il faut évidemment que la barrière de sécurité soit beaucoup plus forte. C'est la même chose en matière surnaturelle. Donc, il ne faut pas oublier ça, c'est que, encore une fois, on revient toujours au même principe de saint Thomas d'Aquin, la grâce n'est pas la nature, c'est-à-dire détruisez le surnaturel et le naturel va revenir au galop. Il y a parfois des gens qui ont d'énormes qualités surnaturelles, mais s'il manque la nature qui permet, si vous voulez, au surnaturel d'avoir des fondations solides sur cette terre, on va faire grand-chose ces gens-là. Parfois des gens, par exemple, j'ai connu des gens au séminaire qui avaient une intelligence nettement supérieure, qui avaient des tas de qualités extraordinaires, des qualités extraordinaires sur beaucoup de choses, mais à qui manquait totalement le bon sens. Aucun bon sens. Des grandes intelligences, aucun bon sens. Alors c'était très dangereux parce que c'était des gens qui n'avaient qu'une intelligence purement spéculative, aucune intelligence pratique. Alors là, ça fait des catastrophes. Ça fait des catastrophes, et en fin de compte, on se rend compte quand on étudie l'histoire de l'Église que la plupart des grands hérésiarques étaient des gens d'Église qui avaient une intelligence phénoménale, hors du commun, et qui ont malheureusement utilisé cette intelligence pour faire le mal. Après, je pense à quelqu'un comme Arius, quelqu'un comme Martin Luther. Ce sont des gens qui avaient certainement des capacités intellectuelles assez fortes. Oui. Ce n'est pas empêché de faire des tas de bêtises. Bon, Pélage, c'était pareil. Manès, c'était pareil. Tous les grands hérésiarques des premiers siècles étaient en général parfois des convertis, pas toujours, mais des gens, si vous voulez, qui avaient une intelligence très forte, mais qui n'était pas suffisamment contrôlée par la vertu de prudence. Il manquait la prudence, mais surtout, il manquait la foi, l'espérance et la charité. Donc là, ça allait beaucoup trop vite. Et puis, du coup, il fait des bêtises énormes. Là, j'ai connu des grandes intelligences, je pense que certaines intelligences que j'ai connues au séminaire, mais qui étaient prodigieuses. Des gens qui arrivaient pratiquement à retenir tout ce qu'ils disaient. Pour moi, il faut que je relise les mêmes choses 50 fois pour arriver à les retenir, mais eux, ils retenaient tout du premier coup. Ils avaient des intelligences prodigieuses, mais leur intelligence prodigieuse, justement, n'était pas suffisamment protégée par la vertu de foi, la vertu de prudence. Et ça fait des catastrophes. Ça fait des catastrophes, et j'ai connu ces gens dont certains étaient extrêmement fermes au séminaire, qui maintenant sont devenus d'un libéralisme invraisemblable, et qui disent exactement le contraire de ce qu'ils disaient au séminaire. Bon, au séminaire, ils étaient à fond contre la liberté de conscience, et maintenant ils sont à fond pour la liberté de conscience. Ils viennent de découvrir d'un seul coup que Vatican II, c'était très bien, parce que la liberté de conscience, c'est qui a été expliqué par Vatican II, ben, tout à fait acceptable. Bon. Pourquoi ? Parce que leur spéculation était totalement déconnectée du réel. Et ça, c'est très, 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 très dangereux. Il faut faire extrêmement attention, justement, aux gens qui n'ont pas une connexion entre l'intelligence et la réalité des choses. Et le monde moderne est fait comme ça, malheureusement. Le monde moderne fait des gens, construit des gens qui vivent dans le virtuel constamment. C'est le danger des écrans. Je vois, même pour moi, j'avoue que c'est le même problème que les autres. Je fais une opération, vérifier un truc de comptabilité, je fais mon petit téléphone portable, j'ai une petite calculette et hop, je fais mon calcul. La dernière fois, j'ai voulu faire une opération, mais vraiment de base, d'une division, je dis bon, je vais la faire à la main, mais je ne sais plus comment faire une division. Bon, parce qu'à force de prendre une calculette, ben, je ne sais plus faire mes divisions. Bon, oui, c'est un peu bête. Alors, la prochaine fois, donc, on verra. Donc, la page, on commencera la page 44, c'est là où on en est. Donc, on est le 25 juin 17. Donc, on recommencera en haut de la page 44. Le prochain cours, donc, il aura lieu c'est jeudi prochain, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien de spécial jeudi prochain. Il y aura cours dans une semaine, si Dieu veut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Ignace de Loyola, Saint Thomas d'Aquin, Père du Fils et du Saint-Esprit.